Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step. Aujourd'hui pour un nouvel épisode de Step Story, je suis avec Philippe Van Der Stiegel, fondateur, co-fondateur de Rocket Shark. Salut Philippe.
Salut Bastien.
Avant qu'on commence le podcast et que tu commences vraiment à te présenter comme d'habitude dans la première partie, est-ce que tu peux revenir sur Rocket Shark et vraiment me dire voilà ce que vous proposez, quelle est votre solution?
Ouais, alors en fait Rocket Shark c'est un outil de gestion et de prévision de trésorerie pour les startups. On sait tous que le cash c'est le nerf de la guerre, spécialement pour les startups, et en fait généralement on suit son cash sur Excel ou des Google Sheets, c'est hyper laborieux. Et en fait, on a voulu simplifier et automatiser ça, notamment en se connectant directement au compte bancaire. Donc en fait, avec Rocket Chart, tu as une vision précise et en temps réel de ta situation financière, de ta structure de coûts, même de ton solde de TVA, puisqu'on gère maintenant la TVA. Et derrière, on devient un outil d'aide à la décision avec un système de scénario prévisionnel.
Tout ça en SaaS.
Ouais.
Ok, bah écoute, on va bien avoir l'occasion d'en parler, surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter, voilà, qui t'es, ton profil, tes expériences, ce que tu as fait avant Rocket Chart ou pas, tes différentes boîtes qui t'ont peut-être amené à Rocket Chart? Vas-y, dis-moi tout.
Yes, alors du coup, j'ai 26 ans, bientôt 27. D'ailleurs, je pense que quand le podcast sortira, j'aurai eu mes 27 ans. alors du coup, je suis diplômé de l'école ingénieur des arts et métiers. Et en fait, l'entrepreneuriat, ça a commencé assez tôt et je dirais même que c'est mon frère, mon petit frère Marc, qui est associé avec moi d'ailleurs sur Rocket Chart, qui m'a un peu transmis le virus. En fait, ça remonte à l'époque où lui, il était au collège, en 3e ou 4e, je ne sais plus, et moi, je devais être seconde ou première. Et en fait, il avait créé un site e-commerce sur lequel il vendait des abonnements Xbox Live. Tu sais, pour jouer au Xbox Live en ligne, tu es obligé de payer un abonnement que tu actives, tu vois, à l'année ou au mois. Et en fait, il y avait un site sur lequel on pouvait les acheter moitié moins cher qu'en magasin. Genre à l'époque, tu les achetais sur Micromania, tu vois. Enfin, chez Micromania. Et il s'était posé la question, il s'était dit, mais comment c'est possible de les avoir genre à moitié prix, tu vois. Et en fait, il a trouvé des grossistes chinois et mexicains. Et donc, il a créé son site e-commerce comme ça. Et donc, du coup, il était, tu vois, en troisième, il était au collège. Et genre, il envoyait ses mails pendant les cours et tout. Je me souviens même, il s'était fait engueuler par une prof de maths parce qu'il envoyait des emails pendant le cours. Il fallait qu'il envoie les codes, en fait, quand les gens payaient.
Il envoyait les clés CD aujourd'hui.
Exactement, ouais.
Aujourd'hui, d'ailleurs, ça, c'est un marché de ouf.
Ah ouais,
le business de clés CD, que ce soit PC, console, etc.
Ah ouais, c'est un marché énorme. Ouais. Voilà, et donc, en fait, après, il a fait tourner ça pendant un an et demi. Et en fait, après, je l'ai rejoint pour l'aider à développer le truc, passer un peu au next step. Et sauf qu'en fait, tu vois, j'étais en terminale ou début de prépa, enfin en courant prépa, et en fait, on n'avait aucune idée de ce que c'était le growth, le marketing. Nous, tout ce qui nous intéressait, c'était la fête, l'alcool, éventuellement le travail et puis un peu les filles, tu vois. Donc, genre tout ça, on n'y connaissait rien du tout. Donc, on a continué d'avancer. Ça, en gros, le site, il a été live pendant genre quasiment 3 ans, je crois. Et à un moment, ça tournait bien, tu vois. Genre, on vendait 10-15 codes par jour. Et tu marges à entre 7 et 10 balles par code. Donc ça peut vite te faire un bon petit.
Surtout qu'il y avait des coûts assez faibles en vrai.
Exactement, on n'avait aucun coût. Enfin, le seul coût c'était acheter le code, c'est tout, quoi. C'est de la marge brute, quoi. Donc ça faisait de bon argent de poche. Et finalement, en fait, au bout d'un moment, il y a eu un. Donc on utilisait PayPal en fait pour récupérer les paiements. Et il y a une personne qui a acheté une dizaine de codes et qui ensuite a fait un litige à PayPal en disant qu'il n'avait pas reçu les codes en fait. Parce qu'on a envoyé un email avec la clé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que PayPal, comme c'était des biens immatériels, un email, comme je disais, et en fait, il n'y a pas de protection des marchands. Et du coup, on a perdu le litige et on a perdu des milliers d'euros. Et donc, on a fermé le site parce que ça nous a un peu saoulés. Et puis, bon, Marc, il allait commencer son école de commerce. Moi, j'allais passer mes concours et tout pour rentrer après aux arts. Donc, on a décidé d'arrêter. Donc ça, c'était la première expérience vraiment entrepreneuriale. En fait, ça nous a montré un truc, c'est qu'on pouvait gagner de l'argent par nous-mêmes, en fait. Et c'était un peu le déclencheur de tout. Donc après, ensuite, je suis allé aux arts. J'ai fait, durant mes 2 premières années, j'ai pas mal regardé tout ce qui se faisait. Donc en lisant Madines, TechCrunch, j'étais un peu fou, tu vois, de toutes ces levées de fonds qu'on voyait partout. Et en fait, ça m'a permis de suivre un peu l'écosystème dans lequel j'allais arriver ensuite, l'écosystème startup. Et j'étais passionné par ce truc-là, quoi. Et entre ma deuxième et troisième année, donc on est à l'été 2016, j'étais en stage chez un groupe aéronautique, un grand groupe aéronautique que tout le monde connaît. Et en fait, pour être transparent, je me faisais chier, comme la majorité des stages ingénieurs, de 3 mois. Et donc, et en fait, j'étais avec des potes pendant ce stage. On était ensemble au stage, on avait été tous pris là-bas et on avait loué une maison du coup, et on était en coloc pendant le stage. Et un soir, on était à l'apéro, tu vois, Et il y a un de mes potes qui, on était en rade, on est tombé en rade de saucisson, tu vois, genre à 21h à l'apéro, tu vois. Et un de mes potes, il dit, putain, mais ça serait génial de se faire livrer, livrer du saucisson comme ça, tu vois. C'était le début d'Uber Eats et il y avait Take It Easy, je crois, qui marchait bien à l'époque. Et là, je me dis, putain, mais grave. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en parallèle du stage, dans le grand groupe, là, j'ai développé un site e-commerce sur lequel je vendais des saucissons en box. Ils étaient livrés dans des box, quoi. Donc, j'avais trouvé un fournisseur en Normandie qui proposait des saucissons d'assez bonne qualité, tu vois, avec des goûts stylés, genre cidre, noisette, des trucs cool. Et en fait, j'ai fait un peu un pré-launch, tu vois, avec un système de précommande. Donc, j'ai mis un message sur Facebook et je me suis retrouvé avec un peu moins de 30, je crois, 28 précommandes. Ça m'a permis, en fait, d'acheter mes premiers stocks de saucisson, et c'est comme ça que ça a démarré le truc. Ça a super bien marché. En fait, ça a marché même trop bien parce que j'ai dû arrêter à la fin à cause de ça. Je vais en parler juste après. Donc, en fait, j'ai développé le truc et je rentrais du coup, j'attaquais ma troisième année aux arts, ce que j'ai fait en alternance. Donc, en fait, j'étais 2 semaines à Angers et 2 semaines aux arts, 2 semaines à Angers aux arts, pardon, et 2 semaines dans une start-up à Paris. Startup parisienne, et à côté j'avais du coup mon bon sifflard, ça s'appelait mon bon sifflard, okay. Le truc, et donc je gérais les 3 trucs, et au bout d'un moment j'avais 10-15 commandes à préparer tous les soirs. Donc tu vois, je rentrais chez moi le soir, je préparais mes box de saucissons, le lendemain matin je partais avec une valise de box de saucissons remplie, j'allais à la poste le midi pour aller les livrer, les poster. Et en fait c'était plus tenable au bout d'un moment, et
c'était pas scalable, le truc.
Exactement, c'était clairement pas scalable. En fait les marges étaient fines, tu vois, je gagnais peut-être 5€ par box, et okay. Encore, tu vois, et du coup je me suis rendu compte que c'était pas du tout scalable. Donc j'ai décidé d'arrêter et de me concentrer sur mon mémoire qu'il fallait que j'écrive. En plus, j'allais rejoindre après la start-up en CDI et tout, donc je pouvais plus continuer, quoi. Donc voilà, il y a un peu une deuxième expérience qui m'a beaucoup appris, et qui m'a surtout montré qu'en fait il y a des types de business où les marges elles sont plus ou moins intéressantes, tu vois. Et typiquement le logiciel, c'est clairement un business où tu as des marges qui sont bien plus importantes. Tu marges à 90% quand tu vends un logiciel sur
après,
le produit.
Alors oui, mais après outre la marge, ça peut être la scalabilité. Exactement, tu peux vendre un truc, ouais, où tu fais 70% de marge, mais in fine t'es bloqué à une limite naturelle de 90 par jour. Je préfère faire un truc où je prends 15% de marge, mais je suis scalable à l'infini.
C'est clair.
Tu vois, donc ouais. Après, ouais, c'est un...
C'est clair. Après, j'ai pas trouvé la scalabilité avec mon sifflard, avec la vente de saucissons, j'ai pas réussi.
Ok. Alors maintenant, dis-moi juste un petit peu, je pense qu'il y a une autre expérience à laquelle tu voulais venir, justement celle qui t'a fait grandir dans l'entrepreneuriat, dans le sens où tu as pris conscience de qu'est-ce que c'est vraiment de faire un produit qui est utile pour les gens, de résoudre un problème. Vas-y.
Yes. En fait, un peu au même moment d'ailleurs, de tout ça, là, pendant ma 3e année aux arts, mon frère Marc, toujours le même, il était en échange à Hong Kong, et en revenant, il est revenu avec une idée qui était un Instagram des voyageurs. En gros, il voulait développer une app sur laquelle on pouvait partager ses photos à ses proches quand on était à l'étranger, hyper simplement. Et donc il est revenu avec ça, il m'en a parlé, on était là, putain génial, on va devenir le nouveau Instagram, tu vois. Et on était trop chaud. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a réfléchi un peu au projet, tout ça. Marc a levé des fonds en Love Money, donc, tu sais, auprès de la famille, mm-hmm, et des potes. On a récupéré 25 000 € total à peu
pas
près.
Pas mal, ouais.
Et en fait ça a permis de payer du coup un designer et un développeur en freelance qui ont bossé sur le produit pendant un peu plus d'un an du coup. Sachant qu'on a remis, enfin Marc a remis de l'argent de sa propre, enfin de sa poche pour payer pour qu'ils continuent de bosser avec nous. Et en fait, du coup, c'est arrivé le moment où on allait lancer le produit, à peu près un peu plus d'un an après, quasiment 18 mois. Et en fait, on a lancé le produit et il y a rien qui s'est passé, quoi. Zéro utilisateur, nada, mais genre
aucune traction, aucune,
que dalle,
rien du tout.
Rien. Et en fait, on a mis 18 mois, tu vois, à se rendre compte qu'on avait fait les choses à l'envers. En fait, on était parti d'une idée. On avait levé de l'argent, on avait impliqué des gens avec nous dans une SAS et on se retrouve avec rien et 0€ de chiffre d'affaires. Et en fait, on a mis 18 mois à se rendre compte que, bah, en fait, on n'avait jamais validé le problème au départ et que ce n'était pas un problème, on avait fait un produit que personne ne voulait, en fait.
Alors, grosse cata, mais en vrai, il n'y a, je pense, aucun meilleur moyen d'apprendre.
Exactement.
Que de ça, quoi.
Que t'apprends, cette expérience. De toute façon, tu n'apprends qu'en faisant des erreurs et tu avances dans la vie qu'en faisant des erreurs. Donc, tu ne fais pas d'erreurs, tu fais que des apprentissages.
Mais en gros, là, tu t'étais dit, écoute, moi, j'ai un produit, ça va être révolutionnaire, ça va être monstrueux. Tu étais dans ton petit garage, dans ta petite chambre, avec les volets fermés, tout le monde, personne ne savait que tu existais, à part les devs et ta Love Money, enfin, les gens qui étaient là. Et en fait, t'as perdu 18 mois. Enfin, non, t'as pas perdu du tout, mais t'as pris 18 mois à te rendre compte qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas ça, c'est résoudre un problème qui existe déjà, qui est fort chez certaines personnes, et c'est toi, avec ton produit que tu construis avec eux, que d'ailleurs, c'est ce que tu vas me dire tout à l'heure pour Rocket Chart, et c'est là que vraiment, ensuite, c'est ce qu'on appelle le produit market fit, où tu délivres un produit aux gens qui vient fitter directement sur leur problème. C'est comme si tu prends Tetris, qui manque une case à droite, et que toi, t'arrives pile dedans, en fait. Et vous, vous étiez le mec qui tombe dans la mer, en fait. Il n'y avait même pas de case en dessous parce qu'en fait, il n'y avait même pas de problème. Tu vois,
exactement.
En vrai, je pense qu'il n'y a aucun meilleur moyen d'apprendre. Bon, après, ça, je pense que c'est un peu dur au début. Et après, ça montre quand même une certaine résilience parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui perdent ces milliers d'euros-là et 18 mois qui vont se dire, ils ne vont même pas prendre le recul nécessaire pour se dire, ouais, j'ai perdu 18 mois, ils vont arrêter, ils vont acheter, ils vont reprendre leur. Et voilà. C'est vrai, tu vois.
T'as complètement raison. Ouais.
Donc voilà, vas-y.
Voilà, donc du coup, ouais, c'est, comme tu l'as t'as très bien résumé les choses. Et c'est une énorme leçon qu'on a appris et je pense qu'il y a. Il faut passer par là une fois pour se rendre compte la bonne manière de faire les choses. Quoi.
Alors du coup, la bonne manière de faire les choses, je pense que vous l'avez fait avec Rocket Chart. Maintenant, dis-moi un peu le problème de fond Rocket Chart, du coup, que vous avez repéré les deux vont pour développer le produit, commencer à développer la solution. Parle-moi un peu du marché, quel est le problème?
Yes, alors en fait, ça a démarré en juillet 2019, l'été dernier. On était en vacances en famille et en fait, donc nous, dans le sud de la France, avec mes frères, on profitait, tu vois, la mer, enfin, on kiffait quoi, le soleil et tout. Et en fait, une après-midi, mon père, il pouvait pas venir. On lui disait, mais viens dans les vagues et tout. En plus, tu sais, on était à Osgore, enfin, à côté d'Osgore, donc c'était kiffant. Et en fait, il pouvait juste pas parce qu'il était sur son Excel de trésorerie à anticiper ses charges, à faire des exports bancaires, à faire des exports de ses relevés bancaires pour catégoriser ses transactions et tout. Et en fait, il a passé une journée entière à le faire et ça lui a pourri un jour de vacances, tu vois. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de solution qui existe, quoi? Genre, pourquoi tu passes autant de temps à faire ça? Et du coup, j'en ai un peu discuté avec lui le jour même. Et il m'expliquait qu'en fait, s'il ne faisait pas ça, si tu ne gères pas ton cash, tu sais pas où tu vas. Et derrière, tu ne peux pas payer tes fournisseurs, tu ne peux pas payer tes salariés, tu ne peux pas te payer toi-même et il y a tout qui s'effondre. Donc en fait, la gestion de cash, c'est primordial, quoi. C'est hyper important et c'est une des clés pour réussir un business. Et en fait, à côté de ça, finalement, l'outil qui est utilisé, il n'est pas adapté, finalement. Et donc, c'est comme ça, du coup, que j'ai identifié le problème. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour ne pas refaire la même erreur qu'on a eue avec Traveler, qui était l'application mobile avec mon frère, en fait, je me suis dit, bon, OK, maintenant, il faut que je valide l'idée. Est-ce qu'il n'y a que mon père qui galère sur son Excel? Ou est-ce que d'autres fondateurs de boîtes passent également par là? Et ce que j'ai fait, c'est que le soir même, je suis rentré genre vers 17h, tu vois, dans la maison de vacances, j'ai designé une interface. Je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait sur un dashboard, tu vois, enfin, je sais pas, j'avais
sur
besoin.
Sur Adobe XD ?
Ouais, sur Adobe XD, exactement. Adobe XD, ouais, c'était gratuit. Donc, du coup, j'ai fait ça comme ça, très bel outil. Et donc, du coup, j'ai mis peut-être 3 heures à designer le truc, à mettre les choses au clair. Et donc, maintenant, il fallait que je trouve un moyen de valider ce pain, savoir si c'était un pain ou pas. Et un vrai pain point.
Parce
et donc,
que ça se trouve, c'était juste ton père qui
galérait,
en fait.
Il avait juste pas trouvé le bon outil, tu vois. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, alors, qui va utiliser mon produit? Bah, c'est les fondateurs de business, les gérants de business. Et où est-ce que je peux les trouver, du coup? Comment je peux les contacter? Et en fait, du coup, je faisais partie de certains groupes Facebook, je pense que tu connais. Donc, il y avait French Startup, SaaS.
Ça marche encore super bien. Grave. Il y a une dizaine de posts tous les jours.
Exactement. Il y a SaaS Growth Hacks aussi, SaaS Founders and Exec. Et en fait, c'est des super groupes parce que tu peux du coup partager des recommandations, des conseils, poser des questions. Et du coup, tu as plein de philos, quoi, des mecs qui sont dans la même merde que toi, qui t'aident et qui répondent à tes questions.
Carrément.
Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté le screenshot, le fake screenshot, avec un petit message genre « Hey, we have developed a tool to manage expenses, track revenue and run a financial forecast scenario to make better decisions. » And is it something you will use and pay a subscription for? Tu vois, je voulais voir si les gens seraient prêts à payer. Donc j'ai posté ça, je me souviens très bien, hein, le mardi, c'était un mardi soir, genre je l'ai posté peut-être à 20h ou 22h heure française. Et le lendemain, je me réveille et là, genre c'était un délire. On a eu
126.
Il y a eu sur un post Facebook, il y a eu 126 personnes qui voulaient tester le produit. Et sur un autre groupe Facebook, du coup, français, il y a eu 200, plus de 200 personnes qui voulaient tester le produit. Sans compter les personnes qui m'ont contacté par Messenger direct, enfin en direct. Et donc, en fait, Là, je me suis dit, OK, il y a un truc, quoi. Parce que normalement, tu vois, dans ces groupes-là, les posts, ils ont en moyenne 20 réactions, 20 commentaires. Là, ceux qui marchent bien, c'est 50 likes et puis 50 commentaires. Mais là, on parlait en centaines de commentaires, quoi. Et je me suis dit, oula, putain, il y a un truc, quoi. Et donc, c'est d'ailleurs à ce moment-là, c'est du coup ce moment-là où Ellie et Marc, qui sont deux développeurs. Donc Marc, c'est mon frère, pour rappel, toujours là. Et Ellie, c'est un ancien collègue. Ils m'ont rejoint du coup sur le projet quand ils ont vu cette appétence qu'il y avait, quoi. Voilà. Et donc ensuite, ce qui a été, donc c'est comme ça en fait qu'on a évité le premier écueil qui est de construire un produit dont personne ne veut. On a d'abord validé qu'il y avait un vrai besoin, quoi. Et pour poursuivre dans cette direction-là, tu vois, tu postes tes messages et tu te retrouves genre une semaine après avec 300, on a eu au total 384 leads en gros, personnes qui voulaient tester le
Et
produit.
donc, attends, petite question. Donc là, on sait qu'il y a eu 384 leads, mais est-ce que tu leur as juste dit OK, cool, pardon, par message, ou est-ce que tu as quand même récupéré leur mail, un petit truc?
Alors du coup, ce que j'ai fait ensuite, c'est que certains en commentaire ont mis directement leur adresse email, donc je leur ai envoyé un email, mais pour la ça il doit y en avoir une vingtaine, mais tous les autres, je les ai contactés directement par Messenger, ou alors il y en a qui m'avaient ajouté sur LinkedIn, donc on a discuté sur LinkedIn aussi. Et en fait, du coup, j'ai discuté avec plus de 300 fondateurs de boîtes derrière, et le but, ça a été en fait de comprendre quel était le pain point, tu vois, et quelles étaient les solutions actuelles qu'ils utilisaient et pourquoi est-ce que ces solutions-là, elles fonctionnaient pas? Pourquoi ils avaient dit qu'ils voulaient tester mon produit? Genre, pourquoi leur Excel ne leur suffisait pas, quoi? Et ça a été enfin, finalement, le produit, c'est pas nous qui l'avons imaginé, c'est eux qui l'ont créé, en fait. Tu vois, on a discuté avec nos potentiels utilisateurs avant même qu'ils soient nos
C'est
utilisateurs.
eux qui ont façonné les différentes fonctionnalités dont ils avaient envie, en fait.
Exactement. Et du coup, un truc d'ailleurs, une petite anecdote intéressante. Aujourd'hui, on est connecté directement au compte bancaire. Donc, ça évite de faire des exports, des imports de tes relevés bancaires. Et en fait, ça, nous, on n'y avait pas du tout pensé au début, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en discutant avec un. D'ailleurs, c'est un Français, un bootstrapper français. On discute et puis il me parle d'API bancaire. Je savais pas du tout ce que c'était, tu vois. Et on regarde et là, on s'est dit, putain, c'est ça qu'il nous faut, quoi. On est parti donc du coup pour intégrer les API bancaires qui nous permettent de nous connecter directement au compte en banque. Et c'est une énorme valeur ajoutée pour l'utilisateur, tu vois.
Ça automatise tout.
Exactement. Et en fait, nous, on l'avait pas vu au début. Et on pensait que le mec allait juste importer ses relevés bancaires dans notre outil et puis voilà. Mais
Parce qu'il faut savoir que tout ça, en fait, t'en as fait un article qui prend. Alors, je crois que tu as mis 28 minutes pour lire. En vrai, ça dépend de la vitesse de lecture, mais ça prend un peu moins de temps. Mais qui est une véritable mine d'or sur, en fait, tout ce qu'il est en train de dire. Comment tu pars d'une idée pour la valider, pour aller jusqu'à à la mano construire un produit, et tu reprends toutes ces étapes. Et toi, tu t'es dit, en fait, les gars, notre produit à la base, c'est juste un mec qui va importer ses CSV. Et donc, toute cette étape laborieuse qui peut te faire perdre vraiment beaucoup de clients, tu l'as automatisé en 2 secondes avec 2 clics avec une API, quoi.
Ouais.
Et en fait,
Ça n'a pas pris 2 secondes,
non, mais alors, non,
mais
ça n'a pas pris 2 secondes de
c'est
l'intégrer, mais une fois que c'est intégré, une fois que c'est devant
exactement.
l'écran, ça prend 2 secondes, je parle
Exactement.
en 2 clics, hein, pour
Pour
l'utilisateur,
l'utilisateur,
pardon.
exactement, c'est ça.
Et alors qu'aujourd'hui, en fait, n'importe quel service à une API YouTube, enfin YouTube c'est hyper gros, mais n'importe quel truc à une API, quoi. Donc c'était, alors c'est marrant parce que j'aurais certainement pas pensé non plus, mais c'était marrant de se dire, les gars, on va se faire chier à nous faire à les faire importer des CSV alors qu'on parle quand même de banque, tu vois. Donc
Mais
c'était
du coup, tu vois, comment est-ce que tu te dis, OK, les banques, elles ont des API, on va se connecter directement à elles. Et il y avait
non,
un
ouais, c'est
problème. Un problème, c'est que du coup, tu as des milliers de banques dans le monde. Et du coup, on n'allait pas pouvoir se connecter à la mano à chaque banque, tu vois.
et donc ouais.
Donc du coup, on a trouvé les API bancaires, tu vois, ce qui nous permet de. C'est elles qui ont fait déjà le travail, tu vois. Et nous, on se connecte juste à l'API bancaire, finalement.
Et du coup, j'ai une petite question par contre pour récupérer. Est-ce qu'il a fallu donner un petit ticket à ces banques? Est-ce que c'est public? Est-ce que tu peux tout utiliser? Comment ça se passe pour intégrer directement?
Alors, c'est hyper réglementé. Donc nous, on passe par une API bancaire qui s'appelle Budget Insight, française, qui est connectée à toutes les banques françaises. Et pourquoi est-ce qu'on passe par eux? C'est que il faut avoir normalement pour pouvoir avoir accès aux informations qu'il y a sur les comptes bancaires en tant que
Il
tiers.
faut passer par quelqu'un de
Il
réglementé,
faut
quoi.
passer par
Par un
quelqu'un de,
admin, en gros.
exactement. Il faut
Ok.
passer par quelqu'un qui a eu un agrément de la part de la CPR, de la Banque de France. Et donc, du coup, Budget Insight, ils l'ont. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intégré à eux, en fait. Et ils nous couvrent grâce à leur.
Ok, c'est un peu votre Dumbledore du truc, quoi. En gros, il est là
Ouais.
pour vous. Enfin, c'est votre bouclier dans le sens où s'il y a une erreur, bah, c'est c'est eux qui l'ont laissé passer. Vous n'êtes que, si tu veux, le gars qui a demandé à en bénéficier.
Ouais, c'est ça. En gros, c'est, t'as bien résumé.
De toute façon, vous pouvez même pas toucher, modifier. Dans tous les cas, ça reste. Vous, c'est du transit, quoi.
On fait que de la lecture. Enfin, c'est eux qui font la lecture et ils nous transmettent les informations, en fait.
Ils vous impriment le truc et ils vous l'envoient, quoi.
Exactement. En gros, c'est ça.
Ok. Donc là, on a eu comment l'idée est venue, comment vous êtes lancé du coup avec le fake it until you make it classique, tu vois, mais qui est toujours aussi efficace. On a eu le comment vous êtes fait connaître par rapport à vos premiers clients pour la construire à la mano, toujours avec ses groupes Facebook. Qui en soi, on peut se dire, ouais, Facebook, nanana, Facebook, je suis désolé. En tout cas, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, etc., et même commu française, c'est pas mal du tout. Genre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens impliqués. Alors, c'est vrai que sur Paris, c'est plus facile, honnêtement. Mais je suis désolé, Facebook, c'est français. Enfin, c'est dans toute la France, même en étant dans le fin fond de Toulouse, on peut être sur ces groupes-là et parler à des gens.
Exactement. Qui sont en train de et il y a plein de petits groupes locaux d'ailleurs. Il y a plein de petits groupes locaux d'entrepreneurs dans toutes les grandes villes. Donc c'est...
Exactement. Bon, après, ces gens-là, on les retrouve aussi dans les gros groupes. Oui, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits groupes locaux, carrément. Oui. Ok, donc maintenant qu'en fait, vous aviez construit votre produit, qu'il était prêt, si tu veux, à faire rentrer des early adopters, des bêtas pour vraiment tester, voir est-ce qu'on sait qu'ils ont voulu, ils vous ont demandé cette fonctionnalité-là. Maintenant, est-ce que ça marche? Vous avez ouvert une bêta en décembre. Comment ça s'est passé, si tu veux, les inscriptions, les premiers ressentis du produit par des gens qui n'avaient pas participé à sa conception? Il y a eu des belles boîtes, il y a eu des beaux petits noms quand même dans les premiers clients en tant que B2B.
C'était pas des clients, c'était des bêta testeurs.
Pas des clients, mais pardon, des bêta testeurs. Voilà, raconte-moi un peu tout ça.
Yes. Déjà, il faut savoir que la construction de la bêta, elle a pris 3 mois, en fait. Quand on a discuté avec tous les fondateurs de boîtes qu'on a récupéré un max de feedback, c'était pendant tout l'été. Et ensuite on a sorti le site web, et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait du coup tout simplement un bouton où tu pouvais t'inscrire à la bêta early, quoi, enfin get early access, qui était relié à un spreadsheet parce qu'on n'avait pas encore de back,
une landing page, en fait.
Ouais, exactement, une landing page, quoi. Et donc j'ai envoyé la landing page à toutes les personnes qui avaient commenté, avec qui j'avais échangé et tout, pour qu'ensuite ils convertissent en bêta, en inscription pour la bêta. Et du coup, une petite anecdote hyper drôle d'ailleurs, enfin pas drôle en fait, mais c'est important de le rappeler, c'est qu'on utilisait Zapier pour faire le lien entre le form d'inscription et le spreadsheet. Et en fait, du coup, j'ai testé tout le flow la veille, et donc le lendemain matin, je commence à envoyer la landing page à certains utilisateurs. Et on utilise Hotjar sur le site pour un peu voir traquer et voir les recordings. Et en fait, je vois un recording où il y a quelqu'un qui s'inscrit, tu vois. Et j'étais là trop content, genre, putain, notre première inscription, tu vois. Donc, j'étais comme un fou à l'appart, je me souviens. Et je vais voir sur le spreadsheet, et en fait, il n'y avait rien. Et en fait, ce qui s'est passé après investigation, c'est qu'on était sur un free trial avec Zapier. Et en fait, le free trial s'est arrêté le matin où on a lancé, où j'ai envoyé la landing page aux gens. Donc, je n'ai pas retesté le flow. Et ce qui se passait, c'est qu'on utilisait une feature premium pour notre flow. Et donc, en fait, notre zap a été coupé. Et en fait, on a officiellement perdu la première inscription à la bêta de notre site. Et j'ai jamais pu le retrouver, en fait. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Donc, gros fail. Et le truc que je voulais rappeler là-dessus, c'est qu'il faut toujours tester et retester tout ce que tu fais avant de scaler la chose, en fait. Voilà, petite anecdote là-dessus.
Bon, quand on est parano, ça va vite, mais quand on est un peu trop confiant, on peut oublier. Ouais.
Exactement. Voilà, donc petit rappel là-dessus. Donc, ensuite, on a eu le site web. Marc et Ellie, donc, sont les développeurs. Ils ont bossé sur la bêta, sur la construction de la première version. Et donc, pendant 3 mois, c'était de fin août à fin novembre. Pendant ce temps-là, moi, je commençais à réfléchir à la stratégie commerciale. Je continuais de maintenir une bonne relation avec tous les bêta-testeurs, enfin, toutes les personnes avec qui j'avais échangé. Le but, c'était de les tenir au courant, etc.
Et donc, une vraie rétention, quoi, jusqu'au produit. Quoi,
ouais. Et de créer surtout de créer un peu une communauté. Tu vois,
carrément, c'est plus important. Ouais.
Exactement. Donc, on est début décembre, là, tout début décembre, on sort la bêta. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je ne voulais pas juste que les gens s'inscrivent, ils testent le produit et après ils partent. Parce qu'en vrai, la bêta, elle était pourrie. Enfin, on avait vraiment honte de notre MVP, tu vois. Et je pense que c'est normal pour un MVP, tu vois, mais franchement, il faisait...
Si t'en as pas honte, c'est que ton produit final, il est pourri, quoi.
Ouais. Exactement. Il faisait 10% de ce qu'on disait sur le site, quoi. Okay. Donc, c'était un peu la honte, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, je veux avoir des vrais feedbacks, je veux continuer la relation que j'ai avec les early bêta testeurs. Donc en fait, quand on a eu le produit ready, j'ai envoyé un mail ciblé à certains bêta testeurs et je leur ai dit, ok, on peut tester, vous pouvez tester la bêta, mais je veux être à côté de vous quand vous la testez. En gros, je vais m'asseoir à côté de vous et voir comment vous allez utiliser le produit.
Okay.
Et le but de ça, c'était en fait de récupérer des feedbacks en live et de voir un peu les problèmes du UX en live. Et donc, on a fait finalement, la bêta, ça a été que des démos et quelques utilisations récurrentes du produit, mais très peu. Et ça a été au final un peu moins de 25 utilisateurs, tu vois. Et en fait, avec ces 25 utilisateurs-là, on a récupéré, je sais pas, genre peut-être 70 feature requests. Ça a mis en avant des problèmes du UX qu'on a corrigés, parce qu'en fait, je le voyais en live quand il utilisait le produit, donc je voyais les difficultés du UX qu'il y avait. On a fait pas mal de modifications là-dessus. Et surtout, à la fin, du coup, au bout du 20e, on voyait les feedbacks qui se recoupaient, les choses revenaient régulièrement, et donc on s'est dit, ok, on a récupéré, en fait, maintenant on sait qu'est-ce qu'il faut.
On sait vers quoi tendre. Quoi.
Exactement. On a la vision un peu produit à plus long terme, et ça va nous amener vers un must-have product, tu vois. C'était l'objectif de la bêta, en fait, identifier les features qui allaient faire que notre produit était un must-have.
Ok.
Ou qu'on s'en rapprocherait en tout cas. parce que c'est dur d'avoir un must-have. Okay. donc on a fermé la bêta début janvier. Et là, on s'est dit, on a priorisé en fait du coup nos features pour la V1, la première version payante. Et on a bossé donc de début janvier jusqu'à maintenant.
Ok, donc en fait, vous avez fait bêta août-novembre, décembre-janvier, modification.
On a fait construction de la bêta août-novembre. Lancement de la bêta avec les utilisateurs en décembre.
Okay.
Et ensuite, janvier.
Récupération de tous les feedbacks, ouais, pour tendre vers un produit un peu mieux. Et là, on part live. Alors, nous, le podcast, il va sortir le samedi 29 février. Aujourd'hui, on parle, on est le 18. Hein, voilà. Mais du coup, c'est live dès demain. C'est
exactement.
Ce soir, demain.
Il passe en prod ce soir et on a notre premier utilisateur, le premier client demain matin.
Ok, on va parler du business model. Du coup, c'est le premier client qui va s'engager. Alors, il n'y a pas d'engagement, hein, mais qui va payer au moins un mois, du coup. Donc, ce qui est en fait votre business model.
Exactement.
On en parlera un peu tout à l'heure. Mais du coup, voilà. Tout ce travail-là, il a fini par aboutir aujourd'hui, dans la nuit du 19 février. C'est
exact.
Live. C'est out. Okay.
C'est 8 mois de travail qui vont enfin payer. Et
ça ne veut pas dire que l'affinage est fini, pas du tout, bien au contraire, hein, parce que c'est là justement où tu t'ouvres à ton plus grand marché, donc tu en attends encore plus, ça veut dire encore plus de boulot, mais au moins ton truc est live, tu es fier de tes fonctionnalités, tu es plus sur 10% de ce que tu proposes sur ton site, tu es à beaucoup plus.
Exactement. Et un truc aussi intéressant qu'on a fait, je pense que ça peut être utile pour certains auditeurs, c'est que pendant toute la phase de janvier où Marc et Ellie bossaient sur la V1, donc la première version commercialisable, qu'on allait vendre. On avait les maquettes. Du coup, j'ai fait les maquettes sur Adobe XD encore, de la V1. Et en fait, je me suis dit, OK, bon, pour ne pas perdre de temps et être sûr que quand on release la première version, on ait des gens qui payent, en fait, j'ai contacté tous les bêta-testeurs qui nous ont aidés pendant la bêta. Et je leur ai envoyé les maquettes, je leur ai présenté le truc avec un call. Et en fait, je leur ai dit, voilà, on va sortir ça mi-février, ça va être X euros par mois. Est-ce que t'es in ou t'es pas in, quoi.
Okay.
Et en fait, je sais déjà qu'on va avoir, je sais pas, une petite...
Un petit code promo, même pas.
Alors, on en parlera après de notre système. On va faire un système de référal, effectivement. Et, et on aimerait bien offrir Rocket Chart.
Pour les premiers, pour ceux qui ont participé.
Exactement.
Le mec, par exemple, qui a donné des trucs de l'API bancaire, je sais pas s'il est vraiment intéressé par le produit, mais est-ce que y a un petit reward, quand même.
Exactement, ouais. C'est tout à fait prévu, mais c'est normal, tu vois.
Oui, bien sûr. Ok, donc voilà. Maintenant... qu'on a bien compris d'où vient le produit, comment il a été construit. Est-ce que tu peux me dire du coup les 4 gros points, je pense qu'il y en a 4, de ce que fait le produit?
Yes, alors donc Rocket Chart, on est connecté du coup directement au compte en banque de la société. On récupère toutes les transactions, les encaissements et les décaissements du coup en temps réel. On va auto-catégoriser toutes les transactions avec un algorithme qu'on a développé en interne. On aurait pu utiliser un algorithme qui est déjà utilisé par les banques. Tu sais, quand tu utilises ton app Crédit Agricole ou LCL, tu as déjà une catégorisation qui est proposée. Mais nous, on a décidé de faire notre propre algorithme en interne.
Tu vas au McDo et dans ton appli, il y a écrit restauration.
Exactement. Ouais. Et en fait, nous, on a fait notre propre algo en interne qui va apprendre en fait de ce que les utilisateurs, comment les utilisateurs catégorisent leurs propres transactions. En fait. Et c'est eux qui vont créer leur propre catégorie, sous-catégorie pour leurs transactions.
Okay.
Et derrière, en fait, ils vont commencer à catégoriser leur premier flux. Et nous, on va avec notre algo en fait, simplement apprendre de leur catégorisation et auto-catégoriser leurs transactions. Et le but,
c'est un peu de machine learning.
On ne dit pas qu'on fait du machine learning, non, mais on a juste, honnêtement, c'est juste un algo. Quoi.
On a compris, ouais,
donc, voilà. Et Ça permet en fait d'avoir une vision claire de ta structure de revenus et de ta structure de coûts, tu vois. Tu sais, tu vas savoir exactement combien tu dépenses en marketing et dans ton marketing, combien tu dépenses en Facebook Ads, etc.
Fini,
et tout ça automatiquement.
Fini la mémoire, fini les mémos avec des crayons.
Exactement, et les Excel, les galères sur Excel, là, c'est automatique, quoi. Okay. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on te donne du coup forcément ta trésorerie, en fait. On va suivre ta trésorerie à l'instant T et du coup dans le passé, ce qui s'est passé dans le passé. Mais la trésorerie, ce qui est intéressant, c'est le futur. C'est où est-ce que tu vas aller? Comment est-ce que ta boîte va être dans 4 mois ou 6 mois? Et donc du coup, ce qu'on a fait sur la prévision de trésorerie, c'est qu'on a fait un système de scénario où tu vas pouvoir en définir plusieurs d'ailleurs. Et en fait, tu vas indiquer combien tu es par catégorie, combien tu estimes de charges pour les dépenses et puis combien tu estimes de revenus.
Les différentes croissances en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, tu fais des scénarios en fonction de tes croissances, quoi. Exactement ce qu'ils font aujourd'hui sur des Excel, tu vois.
Okay.
Et là où on apporte vraiment de la valeur et où tu vas pouvoir en fait améliorer tes scénarios, c'est qu'on va venir mapper avec la réalité en fait derrière. On va pouvoir venir te comparer ce que tu avais prévu avec ce qui se passe réellement. Et tu vas voir que là, putain, en fait, mes sales, ça va pas du tout. On s'écarte complètement de mon scénario optimiste.
Ok,
tu
donc
vois.
Ça permet pas que d'anticiper, mais aussi de prendre du recul.
Exactement. En fait, c'est ça. Et derrière, on a énormément d'autres features sur la partie prévisionnelle. On veut s'intégrer au logiciel comptable, genre QuickBooks. Comme ça, on peut te fournir un prévisionnel à partir des factures qui ont été émises.
Okay.
On va aussi faire un système de scénario. En mode, tu prévois de recruter une personne tel mois, tu vas finir ta levée de fonds tel mois, tu vas
quelles seront les conséquences de tels actes.
Okay. Exactement, pour voir en fait les conséquences d'un acte précis en fait sur ta gestion de cash à 3, 4, 6 mois ou un an.
En fait, tenter des petites dingueries de recrutement, quelles conséquences ça aura sur 3 mois, sur 6 mois.
C'est ça, voilà. Et voilà. Et le but, ça sera ça, parce que c'est ça, toute la gestion de trésorerie, c'est de savoir où tu vas et où tu seras dans
quelques
mois.
Pareil pour la
TVA. Voilà, et du coup, effectivement, la TVA, dernière chose, c'est la dernière feature pour l'instant qu'on a. Chaque transaction, tu assignes une TVA, on a un algo qui va venir automatiquement appliquer le bon taux de TVA à ta transaction.
Okay.
Et du coup, tu sais à l'instant T ton solde de TVA, tu vois. Et tu vas pouvoir anticiper, tu vas pouvoir déjà vérifier les prélèvements que l'État te fait ou combien il te doit en TVA. Et puis tu vas pouvoir anticiper sur ta trésorerie parce que tu vois, si ta TVA c'est tous les ans, tu vas avoir un énorme décaissement de TVA d'un coup. Il faut l'anticiper, tu vois. Si tu as 50 000 balles qui vont sortir et que tu n'as que 40 000 sur le compte, là il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'on fait ça.
Ok. Du coup, tout ça, aujourd'hui, business model, il y a un seul prix, c'est 99€ par mois, pas d'engagement.
Toutes features incluses, démos incluses, tout est inclus pour l'instant, c'est aux petits oignons.
Okay.
Parce qu'on est en early, vraiment early stage. Donc, effectivement, on a un prix, 99€ par mois. Faut savoir en fait qu'on a fait beaucoup évoluer le pricing. Je sais pas si tu veux qu'on en parle.
Alors, en fait, c'était ma question. Ma question elle est toute simple. Pourquoi 99 et pas 139?
Ok. Alors, en fait, c'est une histoire de positionnement en fait. On cible en fait les fondateurs de start-up. Quand tu es start-up, bon, t'as pas 500€ à mettre dans un logiciel, quoi. Donc déjà, il faut que le prix soit en accord avec ta cible. Et notre cible, nous, clairement, c'est les fondateurs de start-up qui ont levé en seed, en série A ou qui sont autofinancés et qui marchent bien.
Après, il y a des services qui coûtent beaucoup plus que 500€, mais qui sont obligatoires.
Ouais.
Où là, tu es obligé de mettre, par exemple, il y a des boîtes qui n'en ont peut-être pas forcément besoin, mais qui mettent 700 balles dans HubSpot pour avoir le sales plus le marketing, tu vois, alors qu'en vrai, mais ok, donc il y a une question de positionnement plus d'adaptation à la cible, ok.
Et surtout, on avait démarré en fait au début avec un pricing au chiffre d'affaires en fait. Du coup, on avait un tarif qui évolue en fonction du chiffre d'affaires que la boîte faisait. Et donc ça partait de 49€, je crois, jusqu'à, et ça montait à l'infini, quoi, jusqu'à 500€ par mois, quoi. Et en fait, c'était le premier pricing qu'on a mis en place. Et les retours qu'on a eu là-dessus, par les bêta-testeurs et avec toutes les personnes avec qui j'ai échangé, c'est que ça collait pas pour deux raisons. C'est que les gens sont hyper frileux, en fait. Quand tu as un pricing évolutif, ils n'arrivent pas
dire que ça vaut le truc, quoi. Ouh. Parce que si la veille, tu le payes 49 et que demain, tu pètes et tu le payes 200, ça te fait un peu chier.
Exactement, il y a ça. Exactement. Et en fait, du coup, tu peux pas aussi te dire, bon, je sais que ce logiciel, c'est X€ par mois, tu vois. Tu dis, merde, ça se trouve, le lendemain, il va être à 199€ par mois. Donc là, il y avait un petit blocage là-dessus.
C'est comme si Stripe, au lieu de toujours 2,5%, le lendemain, il prend 7,2, quoi.
Exactement. Ça se fait direct un impact, quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que je disais au début, c'est une histoire de positionnement. Et en fait, au début, on avait en tête de cibler les PME, les agences digitales, les fondateurs de start-up, les start-up plutôt hardware ou start-up tech, enfin les deux. Et au final, on a décidé de se focus sur vraiment la partie fondateur de startup tech pour l'instant, en tout cas pour le lancement. Et donc du coup, on a fait un prix vraiment hyper simple et adapté en fait à ce marché-là, tu vois, parce qu'on a des concurrents qui se positionnent à des tarifs qui montent jusqu'à 499 € je crois par mois, et c'est engagement un an, tu vois.
Okay.
Voilà, donc nous on a fait un truc hyper simple qui, je pense, qui est adapté à notre cible, et là aujourd'hui, tu vois, le prix il pose pas de problème a priori.
Ok. Et en plus, avant de passer live, vous avez un mec qui s'est déjà, lui, il a payé quoi, déjà quasiment.
Ouais, il a quasiment payé. On a
Est-ce
même...
qu'il a payé déjà?
Non, il a pas payé.
Mais il est.
Il est au courant, il sait. En fait, c'est juste qu'il a pas payé parce qu'on a pas mis Stripe encore, on n'a pas implémenté le truc. Mais en gros, il y en a plusieurs. En fait, ils savent que le prix c'est 99 € par mois. Et je crois que sur les 15 qui sont chauds, il y en a un pour qui ça a été un peu frileux. Et en fait, le seul problème, c'est après, c'est la valeur perçue, tu vois. C'est juste que le mec était hyper bien organisé. Et donc, lui, sa gestion de trésorerie, il la faisait en 2-2 parce que c'était une machine de guerre, tu vois, là-dessus.
Et donc, rajouter 100 € pour ça.
Voilà.
Ça,
le temps qui passait, ça ne valait pas les 99 € par mois. Okay. Bon, après, au final, je pense qu'il va quand même l'utiliser parce qu'on va faire un système de référal dans l'app. Tu vois, où quand tu partages, tu
parraines, quoi.
Ouais, voilà, tu parraines un de tes potes, tu gagnes un mois gratuit, tu vois.
Okay.
Donc, ça permet d'incentiver les utilisateurs.
Mm-hmm. Carrément. Du coup, on va parler un peu de la team. Tu me dis que vous êtes trois, toi, ton petit frère et un de tes anciens collègues. Dans quel cadre s'est passé le développement du service ? Est-ce que vous étiez en full time, tous en full time? Est-ce qu'on avait en side project? D'où vous travaillez? Est-ce que vous travaillez tous ensemble? Est-ce que c'était en remote, à distance? Comment ça s'est passé? Qui fait quoi? Vas-y.
Yes. Alors du coup, on est trois sur RocketChart, trois associés. On est en cours d'ailleurs de création de la SARL. Et donc c'est deux développeurs. Il y a donc Marc, mon petit frère, qui touche plutôt au back-end, et Eli, un ancien collègue, comme tu disais, qui lui est full stack, donc qui fait du front et du back. Et en fait, donc moi, qui fais ensuite, on va dire, le reste, donc la partie design, product, growth, sales, juridique aussi, du coup, vu qu'on est en plein dedans en ce moment. Et on s'est réparti les choses de manière très précise pour une raison, c'est qu'en fait, eux, ils sont en side project. Depuis le début, ils sont en side project, ça veut dire qu'ils bossent que les soirs et les week-ends. Je suis le seul à plein temps sur RocketChart. Et donc, on s'est réparti les choses de la manière suivante. Marc, il bosse uniquement sur le back-end et sur l'API, les API bancaires qu'on intègre. Et Eli, il bosse sur la partie front, tout ce qui est front, le site et tout le front de
tout
l'interface.
Tout ce qui est visuel, tout ce qu'on voit.
Exactement.
Tout ce qui est parti, comme on dit, client et back, côté serveur. Okay.
Exactement. Et en fait, on a décidé de faire ça pour aller hyper vite. On est obligé de faire ça si on voulait aller vite, en fait. Il fallait que chacun soit responsable d'une partie du...
Et ça s'est bien passé ?
Et ça s'est super bien passé. La preuve, on est enfin...
Ouais, bah, c'est vrai.
En 8 mois, on a sorti un... On est parti... En 8 mois, on est passé de l'idée. On n'avait rien, on avait juste l'idée. On a fait tout le chemin qu'on a expliqué au début.
Mm-hmm.
On a sorti la bêta. Et là, on est en train de sortir la V1 qu'on commercialise.
Et du coup, vous travaillez ensemble en remote
Et du coup, ouais, on travaille en remote, en fait. Mon frère est en Allemagne.
Okay.
Eli est à Paris, mais il bosse de chez lui les soirs et les week-ends en région parisienne, et moi je bosse de chez moi à Clichy, tu vois.
Okay.
Et en fait, c'est vraiment une vision qu'on a de la boîte, qui est vraiment de la construire en remote, tu vois. Et c'est hyper important de définir au début justement quelle vision tu as pour ta boîte, en fait. Je pense qu'il faut vraiment en gros définir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Quelles attentes tu as dans la vie, et du coup, il faut que la boîte que tu crées à côté, elle soit en phase et alignée avec...
Culture, en fait, ça rejoint, c'est pas du management, c'est un peu les cultures qui sont dans ta boîte, même quand tu vas, comment ça va s'organiser, à 3, puis quand vous serez 4, puis quand vous serez 5, pour que ce soit en fait naturel.
Exactement, c'est ça. Et c'est marrant que tu dises ça, parce que pour l'instant, tu vois, la vision qu'on a, on veut pas recruter. On n'a pas prévu de recruter. Si on veut rester à 3 et qu'on a, 500 clients et que ça tourne bien, ça nous va, tu vois.
Ouais, après, il faut du sales, il faut s'occuper de la communauté, il faut animer tous les réseaux. Tu vois, après, il y a plein de métiers qui
vont.
Pas sont nécessaires, mais si tu veux grandir dans la croissance, si tu veux maintenir une croissance, aller plus loin, même à un moment, il y aura tellement de trucs à faire, tu pourras même plus, tu vois. Faudra que tu t'alloues certains trucs et puis d'autres choses que tu devras forcément déléguer, tu vois. Et c'est même pas que tu devras, c'est que ça sera mieux.
Ouais, genre, je pense que tu as raison sur le fait que ça sera mieux. Après, faut trouver les bonnes personnes en fait. Et on n'a pas, tu vois, on va pas recruter pour le plaisir de recruter. Et après, c'est une histoire d'organisation aussi, tu vois. Je sais pas, l'Aimlist, ils sont 8 et ils gèrent 3 produits, tu vois. C'est une histoire d'organisation en fait. Et ils étaient à 3, ils ont fait l'Aimlist, ils étaient à 3, ils sont montés à je sais pas combien de.
De Guillaume Moubèche.
Ouais, ils sont montés à je sais pas combien de MRR à 3, tu vois. Et c'est juste une question d'organisation. Et je pense que le fait d'être que 3, ça te force à te focus sur l'essentiel et justement à aller là où il y a de l'impact, tu vois. Et ça va t'aider dans la croissance.
Justement, c'est bien que tu parles de ça, c'est une petite ressource. Justement, je crois que ça fait un mois, un truc qui est parti assez viralement, c'est devenu assez viral. Son article justement de 0 à 1 million, je crois. De 0 à 1 million, toutes les étapes, les différents trucs, effectivement, à 8, par où ils sont passés, comment ils ont fait en fait. Donc effectivement, c'est cool que tu en parles.
À chaque fois, Guillaume, il fait des articles intéressants de toute façon. Et d'ailleurs, c'est en lisant ces articles que je me suis dit, putain, il faut qu'on en fasse aussi pour aider les. Ouais, juste parce que les gens, ils ont des trucs à retirer, tu vois.
Écoute, super transition. Moi, j'allais te demander, aujourd'hui, Rocket Chart, donc ça part live ce soir, donc le 29, quand le podcast paraîtra, on peut déjà aller sur le site, mais on peut s'inscrire, on pourra payer, on pourra tout faire, on pourra accéder à la feature, on pourra accéder à la solution. Quels vont être vos différents leviers digitaux, stratégie de contenu, comme on vient de dire, vidéo, différents médias, différentes apparitions médias, podcasts, animation des réseaux sociaux via... quels vont être vos différents leviers en fait?
Yes. Alors pour l'instant, du coup, la première chose qu'on a, la base de notre stratégie, c'est vraiment de créer un visage humain et et personnel sur Rocket Chart. On veut pas être juste des gens derrière un ordinateur, tu vois. Et depuis le début, j'ai essayé de garder un lien très très fort avec les gens qui nous ont aidés en nous donnant des feedbacks dès l'été quand on a commencé à bosser sur le projet, mais également à la bêta et tout. Et j'ai vraiment essayé de créer un lien fort, et ça, on va le préserver. Et je pense que c'est la base de tout. Vraiment, garder l'aspect humain et personnel des choses, parce qu'on n'est pas juste des mecs derrière un écran, quoi. Ensuite, comme je te disais, du coup, j'avais écrit, non, c'est toi qui le disais d'ailleurs, j'avais écrit un article qui racontait comment on était passé de nos 5 premiers mois en fait, en bootstrappant Rocket Chart, donc de l'idée jusqu'à au lancement de la bêta. Et l'article a super bien marché, j'ai fini au top 2 d'Hacker News là. Ça a généré, après, c'est que des pics qui durent pas dans le temps, mais ça permet de générer un peu de trafic. Et en fait, ça a bien marché. On a récupéré plein de bêta sign-up avec ça. Plein de gens. Ça a amené plein de discussions hyper intéressantes avec énormément de gens. Ça m'a permis de faire un podcast avec Heroku aussi, qui va sortir après en mars. Je pense qu'on va continuer cette stratégie de contenu-là, mais ça va pas être une stratégie forcément de contenu tourné autour de la gestion de trésorerie, mais vraiment autour de, je pense, tu vois, de donner des tips vis-à-vis de notre histoire. Qu'est-ce que les gens peuvent apprendre de nos erreurs, en fait. Il va y avoir, je sais pas, des articles sur comment on gère notre produit, comment on fait notre product management chez Rocket Chart, comment on a pricé, j'en ai parlé tout à l'heure, mais comment on a pricé notre produit, quelle erreur on a faite, qu'est-ce qu'on peut en retirer et tout ça. Donc ça, c'est la première chose, vraiment, la deuxième chose, pardon, après l'aspect humain et personnel, la deuxième chose, c'est vraiment éduquer les gens, mais sur quelque chose, enfin, pour leur apporter de la valeur en fait. Je veux juste que les gens, ils aient de la valeur. Je veux qu'ils se disent.
Quelle que soit la manière, quels que soient les sujets abordés, tout ce que tu veux délivrer, c'est de la valeur. En fait. Que ce soit avec ton produit ou avec tes différents contenus.
Exactement, ouais. Je veux pas que les gens, ils disent, putain, Rocket Chart, c'est que du hard selling, ça me saoule. Je veux que les gens, ils se disent, non, c'est cool, ils donnent de la valeur comme ça, ils donnent de leurs tips de par leur expérience, c'est cool, quoi.
Avec de la proximité où c'est le mec qui écrit son article, etc.
Exactement, c'est ça. Et ensuite, la dernière chose, il y en aura d'autres, je pense, qu'on va tester ensuite. Je ne les ai pas encore tous en tête, je pense. Encore.
J'espère.
Et la suite de notre stratégie, ça va être d'utiliser à masse LinkedIn et Facebook également, donc pour publier les articles, mais également pour, en gros, mettre en avant nos clients. Je veux que tous les jours, on sorte une publication LinkedIn, par exemple, avec la mise en avant d'un de nos clients, parce que, honnêtement, j'adore les personnes... ils nous ont tellement aidés, j'ai envie de leur redonner ça, quoi. Et donc ça va être une autre partie de notre
tous les jours tu vas mettre en avant un gars de ta communauté, par ce qu'il fait, grâce ou pas à ton produit, mais au moins tu le mets en avant.
Exactement, okay. C'est ça. Et voilà, pour l'instant, on s'est arrêté là. Après, forcément, j'ai creusé, forcément, les process de cold outreach avec du prospecting. Il était passé sur le podcast. Mais également le Phantom Buster ou même l'Aimlist.
Il y en a plein dans le cas. L'Aimlist, Pour moi, l'Emlist, et pourtant ça fait pas longtemps que je me suis mis à l'utiliser, c'est le top dans, enfin, c'est là-dessus qu'ils sont positionnés de toute façon, c'est le top dans la personnalisation d'email.
Exactement.
Et justement pour vous qui cherchiez à être au cœur de chaque personne de votre communauté, pouvoir personnaliser que ce soit les mails dans le contenu écrit, textuel et surtout visuel en fait, là où ils sont forts, et ben c'est le must.
Exactement, donc je pense qu'on sera très certainement amené à utiliser l'Emlist dans l'avenir, tu vois. Mais voilà, donc
okay.
Encore, on va dire que c'est encore en maturation, il y a encore du travail là-dessus.
C'est normal, ouais.
Et on va. Ah oui, si, bon, après, bon, le truc de base, de toute façon, c'est de faire un produit qui génère la croissance par lui-même. Et quand on dit ça, c'est un, bon, ok, faire un must-have product, mais du coup, après, ce qui va inciter les gens à en parler autour d'eux, mais il faut les inciter les gens à en parler autour d'eux. Donc, tu fais un programme de référal in-app, enfin, le truc classique. Mais voilà, du coup, c'est, on va dire, le dernier levier pour l'instant qu'on mettra okay. en place.
Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur tout ce qui est, voilà, tout ce qu'on a dit à partir du produit ou même de la stratégie d'acquisition, etc.
Ouais, bah, on en a déjà beaucoup parlé juste avant, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a déjà utilisé les templates d'email genre, que HubSpot propose pour faire ton cold emailing. Et si tu veux passer en fait, au next step, il faut réussir à te différencier. Et je suis convaincu qu'en fait, l'hyper-personnalisation, garder cette touche humaine, en fait, que ce soit, comme on disait, avec les images par l'Emlist.
C'est ce que les gens de LinkedIn aiment bien dire, c'est le human to human.
Tu vois. Exactement, bah, je ne connaissais pas. Et ouais. Bah, voilà, tu as très bien résumé.
J'ai encore vu ce matin sur LinkedIn et tout le monde me sort ça en ce moment, j'en peux plus, donc je le dis. Mais voilà, c'est un peu ça, en fait, l'hyper-personnalisation. Les gens ils disent qu'en fait, la prochaine étape du gros hacking, c'est plus balancer dans la gueule de tout le monde, c'est balancer dans la gueule de chacune personne avec le message que chaque personne a envie d'entendre.
Exactement.
Le human to human, carrément.
Ouais. C'est exactement ça. Voilà, c'était pour finir sur ta question.
Ok, bah, super moyen de finir. Du coup, les deux questions bonus. La première, c'est est-ce que chez Rocket Chart ou toi plus personnellement, tu fais de la veille par rapport à justement, parce que tu as l'air d'assez bien connaître ce qui se fait. Est-ce que tu surveilles voilà, tes concurrents, les features, les marchés est-ce que tu... Ou pas du tout. Ou tu jettes un œil toutes les semaines, même pas.
Alors, vis-à-vis de la concurrence, non, je ne jette pas un œil toutes les semaines. Et je pense qu'il faut pas. C'est important de garder à l'esprit que tu as de la concurrence. Et en fait, il faut surveiller tes concurrents pour te positionner derrière, vis-à-vis d'eux. Là, il ne faut pas que tu sois en frontal avec tes concurrents. Tu vois. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez drôle à raconter à ce sujet. En fait, cet été, là, quand j'ai balancé mes posts Facebook sur les groupes, il y a aussi un truc qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant il y a vraiment un truc à faire là-dessus sur la gestion de trésorerie. C'est qu'il y a le fondateur d'une boîte concurrente. Je ne connaissais pas la boîte à l'époque. Okay. Alors, en vrai, c'était le jour même, donc je ne m'étais pas du tout renseigné sur ce qui se faisait en fait, dans la gestion de trésorerie. Et en fait, il a contacté toutes les personnes qui avaient mis qu'ils étaient intéressés. Il a contacté tous les mecs en message privé. Donc moi, je l'ai appris parce que du coup, les gens, quand je discutais avec eux, ils me disaient « Mais attends, je viens de recevoir un message de ton cofondateur ou alors il y a un mec qui essaie de te griller tes leads. » Et je me disais « Oh la merde, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, du coup, bon, il faisait son petit business, quoi, tu vois. Et bon, ce qui était pas trop cool, c'est qu'il se faisait passer pour moi. Il a inventé un groupe Facebook.
Pour promouvoir son produit.
Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai regardé, la boîte, elle venait de lever 2,5 millions, tu vois, auprès de Kima.
Tous les coups sont permis. Hein.
Et exactement, tu vois, il faisait son petit growth ouais. hacking, tu vois. Et en fait, du coup, je me suis dit, quand t'as une boîte, quand un mec fait ça, et surtout le fondateur de la boîte, tu vois, le CEO, tu te dis, ouais, il y a un truc, quoi. Et donc, ça m'a permis de découvrir ce concurrent, en France en tout cas. Et l'idée ensuite, ça a été bah, comment est-ce qu'on se positionne par rapport au marché, quoi. On a d'un côté, tu vois, Excel, Google Sheet qui sont gratuits, mais très manuels et chronophages. Après, tu avais lui, mais qui ciblait à la base les PME, les TPE, les artisans. Il ciblait par exemple pas du tout les startups. Tu avais aussi QuickBooks. Qui eux font pas du, enfin ils font de la compta, mais ils font leur analytique, c'est pas terrible sur la trésorerie, donc il fallait qu'on se positionne là-dedans, quoi. Et finalement, donc du coup, on a ciblé les fondateurs de start-up parce qu'il fallait qu'on se positionne tout simplement dans notre marché, quoi, et faire en sorte que la concurrence soit irrévélante, tu vois.
Double validation pour toi en fait avec ce CEO mal intentionné, c'est que un, tu t'es dit ce mec là si il veut me griller mes leads, c'est qu'en vrai, il a un petit peu peur, donc c'est cool. Et puis, double validation, c'est qu'il est levé, en fait.
Parce exactement.
Que tu te dis, il peut faire son business dans son coin, c'est cool, il peut te gratter l'idée s'il a envie. Mais c'est que des gens aient parié sur lui, ça veut dire que le marché, il est dynamique,
là,
ça bouge et il est là.
Ouais, exactement. Okay, donc, du coup, merci à lui, hein, parce que ouais. Ça a confirmé la chose.
Du coup, deuxième question, voilà, que j'adore poser. Tu peux me dire le delta qu'il y a eu entre le Philippe avant la première expérience de ta première boîte, etc., qui s'idéalisait, ce que pouvait peut-être lui apporter l'entrepreneuriat, à la fois personnellement ou professionnellement, les différentes opportunités d'évolution. Et aujourd'hui, Philippe, qui voilà, va sortir vraiment son premier produit sur lequel je pense qu'il a le plus bossé, avec des gens, avec des fondateurs, ce Delta pro-perso.
Ouais, bah en fait, tu vois, au début, quand on, il y a jusqu'à il y a 3 ans, on va dire, ou 2 ans et demi, j'idéalisais vraiment l'entrepreneur, tu vois, qui lève des fonds. On voit les articles partout des levées de fonds et tout, les mecs qui revendent des boîtes, etc. Et je me disais, ok, bah c'est stylé, moi aussi je veux qu'on parle de moi dans les journaux, tu vois, c'est un peu ça que je me disais à l'époque, tu vois. Et tu vois, quand on faisait Traveler avec Marc, on se disait, vas-y, on va être le prochain Instagram et tout, on était trop chaud. Et finalement, après toutes ces expériences-là qu'on a eues, que j'ai eues dans le passé, et qu'on a eues ensuite avec mon frère également, on s'est rendu compte d'un truc. Et d'ailleurs, c'est venu notamment en discutant avec les mecs en France qui bootstrapent des business, donc qui sont autofinancés. Donc il y a Guillaume de Lemlist, mais il y a également Jean de Mail Meteor ou Moritz qui a vendu deux boîtes SaaS là, et qui bosse sur Refiner. Et en fait, je les ai rencontrés comme ça, et puis parce que j'ai vu qu'ils ils bootstrapaient des business, et puis je venais de rentrer un peu dans la mouvance Indie Hacker. Et ça, c'était juste avant de lancer Rocket Chart, juste avant de bosser sur Rocket Chart d'ailleurs. Okay. C'était avant l'été 2019. Et en fait, ils m'ont fait vachement réfléchir du coup sur qu'est-ce que c'est que monter une boîte en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper important en fait de définir qu'est-ce que tu veux dans la vie, et en fait aligner après ta boîte avec. Est-ce que tu veux en gros lever des fonds? Est-ce que tu veux travailler comme un ouf? Est-ce que tu veux être fixé géographiquement quelque part, tu vois? Et en fait, du coup, tout ce que ces expériences m'ont apporté, tu vois, le delta qu'il y a eu, c'est vraiment cette prise de recul sur ok, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, pourquoi est-ce que je fais ça, quoi. Et c'est pour ça aujourd'hui, maintenant, qu'avec Rocket Chart, on fait la boîte en remote, qu'on prévoit de ne pas lever des fonds pour l'instant, en tout cas, on n'est pas fermé, mais on prévoit de ne pas lever des fonds. On veut rester que tous les trois associés, on veut pas apporter en gros du management humain, on veut pas ramener okay. les problèmes humains en fait dans la boîte. On veut garder ça à l'écart pour le moment. Et en fait, du coup, c'est vraiment ça que toutes ces expériences m'ont apporté, tu vois, c'est de se dire, ok, j'ai ça comme attente, maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ma boîte, quoi. Parce qu'en fait, de toute façon, ta boîte, que tu le veuilles ou non, elle impactera ta vie perso. Quoi.
Mmh. Si elle n'impacte pas, c'est qu'il y a un problème.
Exactement, tu vois. Oh, on a beau dire, il y en a plein qui disent que, non, moi, ma vie perso passe avant tout, et j'arrive à faire le pont, justement l'inverse, à mettre un mur entre les deux, mais c'est impossible.
Puis si tu y vas pas en plein dedans toi-même, je sais pas qui va le faire à ta place, donc voilà. Ça risque d'être un peu compliqué.
Exactement.
Bah écoute, bonne réponse. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose sur la globalité du podcast? Un dernier truc à dire, à placer, un mot pour quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui t'a aidé, à un moment, un dernier truc?
Yes, bah déjà, forcément tous les bêta-testeurs qui nous ont aidés à construire le produit, en vrai, ils ont passé un temps fou, tu vois, à répondre à mes questions par email, par Facebook Messenger, par téléphone et tout. Enfin, et ils nous ont donné des feedbacks mais énormes, que ce soit sur le produit, mais aussi sur la création de boîte, en fait. Et donc déjà, un énorme merci à eux, parce qu'on ne serait pas là sans eux, de toute façon. Et puis ensuite, merci à mes deux compères, parce que franchement, ils font un taf de ouf en side project. Ils bossent tous les soirs, tous les week-ends, ils bossent comme des oufs sur le produit pour qu'on en arrive au jour J, demain matin. Mm-hmm. Quoi. Et voilà. Et merci à Bastien pour ton accueil.
Ça c'est dans quelques secondes, non, je rigole. Ok, bah écoute, merci beaucoup Philippe, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. Et alors, aujourd'hui, comme en fait la plupart des podcasts, on le tourne à la permanence à Paris. Mais alors, qu'est-ce que la permanence? Je pense que maintenant vous commencez à le savoir, c'est un espace de coworking pour start-upers, pour étudiants, pour team, pour même ils font de la domiciliation, pardon, pour les startups. Vous pouvez venir, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Alors, il y en a une dans le 14e, dans le 18e et dans le 5e arrondissement de Paris. Donc voilà, vous pouvez venir, vous pouvez aller voir leur site lapermanence.com. Merci à eux de nous hoster un peu 75% du temps pour les podcasts. Donc voilà, merci à toi Philippe d'avoir accepté l'invitation.
Merci Bastien.
Si vous avez aimé ce contenu, donc ce podcast, n'hésitez pas à le partager, je sais pas, au sein de tout votre incubateur, de l'envoyer dans votre Slack, de l'envoyer partout, à votre entourage passionné d'entrepreneur ou pas, de votre LinkedIn, à votre frère, à votre cousin, voilà un peu toutes ces personnes qui partagent ou pas votre aventure. N'hésitez pas à laisser une note voilà, sur Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous retrouver du coup Two Step, à voir aussi notre offre d'événementiel pour startup bah, qui se launch aussi pareil dans moins d'un mois directement sur notre site twostep.fr, à suivre Rocket Chart, vraiment c'est quoi votre site, c'est rocketchart.co. .co. Voilà, les réseaux aujourd'hui, il y a quoi
bah sur LinkedIn, de toute façon, les gens peuvent m'ajouter, je réponds à tous les messages.
Voilà.
Ravi d'échanger sur les retours.
Accessibilité, ok. Bah, du coup, merci à toi, Philippe. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. À très bientôt.